1, 2, 1, 2.
Parlons vrai avec BNP Paribas.
Je pars bientôt à la retraite et je me suis encore coincé le dos. Je fais comment pour payer l'ostéopathe?
Eh bien, je vous conseille la complémentaire santé BNP Paribas qui peut prendre en charge les médecines douces. Ah. Et si vous souscrivez lors de votre départ à la retraite, vous bénéficiez de 25% de réduction la première année.
25%?
Mm-hmm.
Pas mal. Moi qui pensais dos au mur, ça va mieux.
BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change.
BNP Paribas Protection Santé assurée par Cardif Assurance Vie, entreprise régie par le Code des Assurances. Voir conditions en agence.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et c'est une curieuse exposition que propose en ce moment le musée de l'armée aux Invalides. Cela s'appelle « Avec armes et bagages » dans un mouchoir de poche. De quoi piquer bien évidemment la curiosité de Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Le sujet de l'expo est inattendu, je vous le concède, mais le résultat n'en est que plus spectaculaire. Pour ma part, je dois reconnaître que j'ignorais jusqu'à l'existence de ce corpus incroyable, de grandes, vastes mouchoirs imprimés d'instructions militaires, d'évocations historiques ou de folklore de conscrits. Ces mouchoirs, le terme est préféré à foulard, très colorés, très décoratifs, sont les ancêtres des célèbres carrés et ils nous en apprennent long sur tout un pan de notre passé.
Alors vous allez en profiter pour évoquer aujourd'hui le temps révolu du service militaire.
Eh oui, un temps relativement bref à l'échelle historique puisque la conscription est née en France avec la Révolution française, on va y venir dans un instant, et on peut dire qu'elle fait largement partie des attributs de la République. Elle n'a été abolie pour de bon qu'en 1997. Cela représente deux petits siècles de classe, d'appels, de marche au pas, de crapahutages divers et de revues de pactage. Alors, prête Julia ?
Oui chef.
Une, deux, en avant, marche !
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
En 1997, par la volonté du président de la République de l'époque, Jacques Chirac, disparaissait donc le service militaire. Pour les bidas, comme on les appelle dans le jargon militaire, c'était l'heure de la quille. Ceux qui, comme moi, ont fait leur classe et leur temps de service ont des avis très partagés sur la conscription. Initiation utile et rite de passage pour les uns, vecteur de brassage social et d'intégration professionnelle pour d'autres, abrutissement collectif et perte de temps et d'argent pour d'autres encore, le service militaire aura eu ses adeptes et ses détracteurs. Alors nous n'allons sûrement pas aujourd'hui rouvrir le vieux débat de l'intérêt social ou militaire du service. Ce que j'aimerais plutôt, c'est que nous nous penchions sur l'histoire de ce système d'enrôlement des masses, sur ses règles de fonctionnement au XIXe et au XXe siècle et surtout sur la culture, sur l'imagerie, sur toute la mythologie qui l'ont accompagné au point de s'ancrer profondément dans l'inconscient collectif et de marquer aujourd'hui encore notre vocabulaire, le regard que nous portons sur l'armée d'une part, sur les jeunes gens d'autre part qui, pendant ces deux derniers siècles, étaient d'abord, ou en tout cas étaient aussi, des appelés en puissance. Qui a institué la conscription? Pourquoi? Dans quelles conditions? Avec quelles conséquences pour les appeler? Combien de temps durait le service militaire en fonction des périodes et des régimes? Comment était-il organisé? Quelles institutions? Quelles habitudes a-t-il fait naître? Comment fonctionnait au XIXe siècle le système de tirage au sort et celui du remplacement? Vous allez voir que c'est assez étonnant. À quoi servait le conseil de révision? Pourquoi a-t-il autant marqué la mémoire populaire? Quelle place ont occupé les appelés du contingent dans les différents conflits? Voilà un certain nombre des questions que je vous propose de nous poser en compagnie d'un de nos meilleurs historiens militaires, Patrick de Gmelin, avant de visiter ensemble la belle exposition du musée de l'armée et d'aller faire aussi un petit crochet jusqu'à une grande maison de luxe du Faubourg Saint-Honoré. Je ne la nomme pas encore, on évitera les soucis. Une maison qui continue d'imprimer de très beaux foulards, n'est-ce pas? Arrivé dans son corps d'affectation, écrit Jean-Louis Riccioli dans le catalogue de l'expo, le conscrit devient soldat. À cette fin, on lui remet d'abord les objets relevant de son nouvel état, habillement, équipement dont souvent un mouchoir d'instruction, un uniforme pour le service de garnison, les corvées ou le service de campagne, le sac à dos dit as de carreau et les accessoires nécessaires à l'entretien du pactage, du cheval le cas échéant, à l'hygiène et à l'alimentation, trousses de couture, gamelles, couverts, plats de campement, outils individuels, couchage, toile de tente, etc. Enfin, l'homme perçoit l'armement, les accessoires, le tout devant être entretenu et présenté à chaque revue selon un plan figurant dans le livret individuel. Alors, d'où vient-il ce conscrit? Comment a-t-il été recruté? Que va-t-on faire de lui? Encore des questions, les réponses dans un instant avec Patrick de Gmelin.
Extrait de Sambre et Meuse, Franck nous plonge aujourd'hui sur Europe 1 au cœur de l'histoire du service militaire.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et Franck, vous nous ramenez aujourd'hui sur Europe 1 au temps du service militaire, le tirage au sort, le conseil de révision, l'incorporation, tout un folklore. Et on en parle en compagnie de votre premier invité, l'historien militaire Patrick de Gmelin.
Bonjour Patrick de Gmelin.
Bonjour Franck.
Merci d'être avec nous. Alors un mot peut-être sur ce qui se passait avant le service militaire. Car lorsque ça a été supprimé, on avait l'impression que c'était une institution qui remontait à la nuit des temps. Or pas du tout. Sous l'Ancien Régime, avant la Révolution, il n'y a pas de service militaire. Alors comment est-ce qu'on fait pour recruter les militaires?
Eh bien, on recrute avec des agents recruteurs. D'ailleurs, l'image est bien connue. On voit un officier bien habillé ou un sous-officier.
Fanfan la tulipe, hein, c'est ça?
Un peu ça. Avec un tambour, une table. Et puis, on attire les braves paysans, parce que ce sont les paysans qui fournissent la totalité des soldats.
De fantassins, en tout cas, oui.
On les fait boire. On leur promet une pièce. On leur dit qu'elles vont avoir un uniforme magnifique, qu'ils vont faire une carrière extraordinaire, que les filles vont tomber. Enfin, des arguments.
On les fait signer pendant qu'ils ont bu, en fait, c'est
avec
ça?
Une croix et un point, bien entendu. Et c'est comme ça que ça marche. Et en 1688, d'ailleurs, Louis XIV, on promulgue une ordonnance pour bien organiser ça avec les milices régionales. Parce que là, le mot « région » a une grande importance. C'est vraiment toutes les régions. Mais ce n'est pas une conscription, pas du tout. C'est un volontariat qui fournit quand même, pendant tout l'Ancien Régime, jusqu'à la Révolution, des troupes qui vont se battre dans toute l'Europe.
Mais oui. Alors, avec la Révolution, tout change, puisqu'on estime que le citoyen a le devoir. C'est une idée très antique, finalement, très romaine.
Oui.
Et ça n'est pas étonnant, tant on sait l'inspiration romaine d'une partie de tous ces révolutionnaires. On estime que le citoyen se doit de se battre pour la patrie. D'ailleurs, on n'a pas le choix.
Alors, on n'a pas le choix, mais alors, l'idée vient des représentants du peuple, vient des députés. Mm-hmm. Et au niveau du dit peuple, c'est tout à fait différent. Peut-être pas dans les villes qui sont très prises par les comités révolutionnaires, mais dans les campagnes qui vont continuer à fournir la majeure partie de ceux qu'on n'appelle pas encore les conscrits, mais ça va venir, on raisonne différemment. Alors là, la patrie est en danger, les soldats de l'an 2, Danton, c'est toute la phraséologie et la terminologie et l'imagerie révolutionnaire. Alors on voit dans les livres d'histoire de notre jeunesse, enfin la mienne, pas la vôtre, Franck, vous êtes beaucoup trop jeune, on voit les images avec les révolutionnaires qui se précipitent pour défendre la France aux frontières. Tout ça, c'est très joli, mais ça ne se passe pas exactement comme ça.
C'est-à-dire qu'il y a des régions qui, évidemment, traînent les pieds, c'est le moins qu'on puisse dire.
Hein. Et non seulement elles traînent les pieds, mais elles vont se soulever, car notamment dans l'Ouest joue
la
un
Vendée,
rôle très
on en
important.
Parlait la semaine dernière.
La Vendée et la Bretagne, on va se soulever d'abord à cause de la conscription, parce que le paysan n'a aucune envie d'aller défendre loin de son champ.
Mais c'est ça.
Un pays dont il n'a pas vraiment idée, le sentiment national de patrie n'existe pas véritablement. Il veut rester chez lui, il veut bien défendre à la limite, j'allais dire, son précaré au sens propre du terme, mais à condition de rester sur place et de rentrer chez lui tous les soirs et s'occuper des bêtes. Donc il y a déjà un gros problème. Et ça va être l'une des causes essentielles, sinon la première cause, du soulèvement de la Vendée et de la Bretagne, donc des provinces de l'Ouest, sur lesquelles vont se greffer la religion, avec l'interdiction des bons prêtres et l'apparition des prêtres réfractaires.
Et puis plus tard, le royalisme.
Et sur le tout, le royalisme qui a l'avantage, j'allais dire techniquement et sur le plan de la communication, je vais choquer peut-être un certain nombre de gens, de regrouper ces deux notions.
Oui, voilà,
on est contre aller se battre aux frontières, on ne veut pas qu'on nous enlève les bons prêtres. Mmh. Et tout ça va donner des soulèvements à l'ouest de la France, un petit peu autre part aussi, mais c'est essentiellement l'ouest.
Alors en 98 est institué donc le service militaire obligatoire.
Hein. Absolument.
C'est la loi Jourdan.
Alors c'est la loi Jourdan. Alors on sait peu que c'est le futur maréchal Jourdan.
Eh oui, c'est lui. Hein.
Hein, qui est à l'époque au Conseil des 500, qui va, proposer et défendre cette loi, avec un monsieur dont on ne parle jamais, et qui s'appelle monsieur Delbrel. Monsieur Delbrel est un avocat.
Dont acte.
Qui est un avocat qui avait voté la mort du roi. C'est un pur, peut-être pas, mais dur certainement. Et la loi officiellement s'appelle Jourdan Delbrel. Alors cette loi, effectivement, institue le service militaire et donc, dans la suite, alors, la conscription.
Un service militaire qui concerne tous les jeunes gens, hein, même jusqu'à 30 ans, hein, de 18 à 30 ans.
Absolument.
Et un service militaire très long, puisque tous ces services militaires, et dans la période qui va nous intéresser là maintenant, on parle d'un service militaire de 5 ans. C'est pas une bagatelle.
Et là, on est un petit peu dans la suite, comme c'est arrivé très souvent au moment de la Révolution, on est dans la suite de l'Ancien Régime. On est habitué, non pas à un service, mais à un passage très long dans l'armée royale. On va passer à un service long dans l'armée révolutionnaire. Mais il y a aussi une raison, c'est que Certains se doutent que les guerres aux frontières, les différentes coalitions, peuvent durer plus longtemps que quelques mois. Donc il faut avoir la réserve de soldats. Et puis en plus, tous ceux qui sont appelés, les conscrits, ne viennent pas loin de là. On sait à peu près qu'au cours des 30 ou 40 années qui vont s'écouler, on a à peu près 30 à 40% des conscrits qui ne se présentent pas ou qui, pour des raisons quelconques, sont exemptés ou réformés.
Alors voilà, on va voir d'ailleurs dans quelles conditions on pouvait être exempté. Et puis surtout, on va découvrir une innovation qui arrive en 1804, en même temps que l'Empire, c'est le tirage au sort. C'est-à-dire que cette conscription, le service militaire était obligatoire, mais était obligatoire pour ceux qui avaient été tirés au sort. Aujourd'hui, ça nous paraît étrange. En fait, ça a duré ça jusqu'en 1903.
Absolument.
Donc voilà, on y vient dans un instant.
Jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Et nous évoquons cet après-midi sur Europe 1 le temps révolu du service militaire en excellente compagnie, celle de l'historien militaire Patrick de Gmeline.
Alors Patrick de Gmeline, je parlais de cette histoire de tirage au sort, c'est étonnant. C'est Napoléon qui a cette idée ?
Oui, c'est Napoléon. Alors en fait, ça tempère un petit peu le côté violent de la conscription habituelle. D'abord, on se rend compte qu'effectivement, il n'y a que 30 à 35%, je le disais à l'instant, de conscrits qui font véritablement leur service militaire.
Or, la force publique n'est pas suffisante pour contraindre les autres à le faire.
Exactement.
Alors, il faut dire qu'il y a une grosse complicité dans les populations. Enfin, on n'a pas le temps d'entrer dans tout ça, mais il y a corps autour. C'est étrange parce qu'on va voir que tout ça va se renverser. D'ici à quelques décennies, il sera extrêmement mal vu de ne pas faire son service.
Exactement.
Mais à l'époque, ce n'est pas encore le cas. Ça va le devenir.
Hein. Et puis alors, là, il y a une question sociale qui intervient. Social qu'il faut d'ailleurs modérer, parce qu'il y a de très riches paysans qui restent des paysans mais qui peuvent racheter. Alors en fait, il y a la fameuse expression qui est d'ailleurs passée dans nos mœurs maintenant, on a tiré un bon ou un mauvais numéro.
Ouais, j'ai on pas tiré le bon numéro, on dit.
Hein, exactement. Eh bien ça vient de là, parce qu'on tirait un numéro, et le numéro, ou bien on partait faire son service, ou bien on restait chez papa, maman ou chez soi. Et c'est là qu'intervient cette chose étonnante qui est le rachat. Moyennant une certaine somme, le malheureux, ou plus exactement son père, le père du malheureux qui a eu de mauvais numéro, peut racheter et il fait partir un pauvre à sa place.
C'est amusant parce qu'il y a quelques jours, nous avons remis, c'était vendredi soir, nous avons remis les prix Un patrimoine pour demain à la Cité de l'Architecture.
Oui.
Et parmi les magnifiques monuments qui ont été sauvés, il y avait une grange avec un séchoir à noix qui a été construite intégralement avec des primes de rachat de conscription. Et c'était l'ancêtre de la dame qui la possède aujourd'hui, avait fait 3 services militaires, dont 2 pour des tierces personnes, évidemment. Et il était payé à chaque fois pour faire le service des autres, en fait. Et au bout de 15 ans, il a eu de quoi se faire construire cette belle grange. Ça faisait partie vraiment du quotidien des campagnes de
l'époque. Tout à fait. C'est effectivement.
Avec les scandales que ça pouvait aussi susciter.
Il y avait des scandales, et puis il y avait des histoires de famille qui surgissaient. Et puis, ça faisait souvent surgir de l'argent de famille qui, a priori, n'en avait pas. On avait mis de côté, donc on pouvait racheter de petits. Et ça posait des problèmes dans les campagnes assez graves. Mais malgré tout, c'est un système qui a marché très longtemps.
Jusqu'en 1905.
Bien.
Donc
absolument.
Pendant exactement 100 ans.
Exactement.
À chaque fois qu'il y a de la conscription, parce qu'il y a eu des petites intermittences, on ne va pas entrer dans tous les détails, mais à chaque fois, c'est par ce système de tirage au sort et de rachat possible pour ceux qui ont les moyens, qui font faire leur service par quelqu'un d'autre.
Absolument.
Service de 5 ans. Et en 1905, on supprime le tirage au sort, mais par contre, on réduit considérablement la durée du service.
Du service militaire, tout à fait.
On le ramène à
3 ans.
À 2 ans. Donc la loi de 1905, c'est la loi du gouvernement
c'est Rouvier,
hein,
Rouvier,
c'est ça
à l'époque, oui. Et qui, alors en plus, il y a une chose qui est importante, on dit bien que c'est un service personnel obligatoire et égal. Il y a toujours les formules républicaines qui viennent pour ce genre de choses. Et c'est le général André qui a fait parler de lui dans d'autres circonstances,
dans
qui était ministre
Dreyfus,
de la guerre à l'époque, est aussi l'artisan de cette loi. Il y a aussi d'ailleurs à cette époque une chose importante, c'est qu'on crée ce qu'on appelle le sursis, et qui va avoir un rôle très important jusqu'à la fin du service militaire pour les gens qui font des études.
Alors, à partir de 1913, puisqu'on est dans cette période de revanchisme et de course à la guerre, disons-le, on comprend bien à partir de 1913 que les choses vont mal et qu'une guerre devient presque inévitable. Oui. Effectivement, elle éclatera en août 1914. Et donc, en 1913, on décide d'allonger un peu la durée du service.
Alors ça, c'est une histoire de grand état-major, dont plusieurs généraux, dont le général de Castelnau, qui
sur lequel vous travaillez en ce moment, donc vous êtes très sensible à la question.
Je publie un livre, un album sur lui d'ici 2-3 mois. Et alors, Castelnau sait, comme plusieurs de ses collaborateurs, que de l'autre côté du Rhin, les bottes commencent à résonner, et des bottes beaucoup plus nombreuses que les croquenots français. Et ça l'inquiète beaucoup, parce que le service est plus long, parce qu'il y a plus d'hommes, donc il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est là qu'il demande, et Clémenceau va être
le porte-parole de cette affaire,
qu'on arrive à la loi de 3 ans, qui a soulevé beaucoup, beaucoup de salive de la part des députés, mais chacun se rendait compte que l'Allemagne allait déclarer la guerre et qu'il fallait faire quelque chose. Et donc, c'est cette fameuse loi de 3 ans, en 1913, qui va durer jusqu'en 1935, je crois, puisque, donc, pendant plus d'une décennie, et on reviendra 2 ans après. Mais donc, cette loi de 3 ans, elle a eu un avantage, c'est que nous avons pu aligner beaucoup plus de soldats qu'on aurait pu les aligner.
Bien sûr, oui.
Ça aussi envoyer beaucoup
certains
plus de soldats à la mort.
Pendant la Première Guerre mondiale, certains vont rester longtemps. Hein. C'est Patricia qui nous écrit par Internet et qui dit que son arrière-grand-père qui avait fait cette grande guerre, lui disait qu'il était parti, il était resté loin de chez lui pendant plus de 6 ans, évidemment, avec les systèmes de prolongement.
Et ça, c'est une chose classique, et ça se reproduira d'ailleurs en 39.
Parce que certains font leur service, puis après le service, ils sont appelés.
Ils sont mobilisés exactement.
Hein,
et là, effectivement, on l'a eu souvent.
Alors, ce que nous allons mettre un coup de projecteur, si je puis dire, sur une des grandes institutions du service militaire. On reviendra sur d'autres aussi avec vous tout à l'heure, Patrick de Gmelin. Mais là, en l'occurrence, on va parler de ce qui faisait tellement de bruit dans les campagnes et de ce qui mettait les petites communes en révolution à chaque fois, le Conseil de révision.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit de Franck qui revient maintenant sur Europe 1, plus particulièrement sur le Conseil de révision.
Et oui, une fois recensée, toute nouvelle recrue de la Troisième République va devoir franchir une première étape, sans doute la plus connue, la plus commentée et la plus pittoresque de son parcours militaire, le Conseil de révision. Le jeune homme, il a généralement 20 ans, est convoqué à date et heure précise au chef-lieu de son canton. Je dis le jeune homme, d'ailleurs il faudra qu'on parle des questions qui se sont posées à plusieurs reprises sur le service féminin, ça m'y fait penser. Donc, à heure précise, alors dans la ville en question, ce qu'il faut dire, c'est que c'est toujours un moment solennel. Il faut savoir que lorsque les membres du conseil arrivent, les membres du conseil de révision, certains arrivent par le train, on va les chercher en calèche à la gare, et ils sont accueillis par un comité municipal, parfois avec fanfare, aide d'honneur, etc. On est dans cette préparation, enfin, ce que je vous raconte là est particulièrement vrai pour les années qui précèdent la Première Guerre mondiale, on est dans cette préparation dans cette époque de préparation à la guerre. Les jeunes gens convoqués doivent se présenter au plus tard un quart d'heure avant l'horaire de convocation. Ça, c'est pour les habitués déjà à la vie militaire. Pour eux, va commencer un véritable examen de passage dans le monde adulte, dans le monde des hommes. Et il faut savoir qu'à l'époque, la famille, le quartier, les camarades, tout le monde est au courant. Et dans bien des maisons, on tient une bouteille d'alcool toute prête pour le passage du conscrit quand il aura été déclaré apte au service. Et alors, il se présentera après le service avec coiffé d'une sorte de bonnet en papier qu'on vend évidemment dans les villes de conscription et dont les traces, dont le témoignage figure dans cette exposition du musée de l'armée avec armes et bagages. Donc les recrues sont appelées dans l'ordre du tableau de recensement. Ils peuvent alors faire part de leurs demandes particulières et de leurs observations. C'est le moment ou jamais de dire si l'on a de l'asthme ou les pieds plats évidemment. Tout ça est noté sur une fiche qui est transmise au conseil devant lequel ils vont devoir se présenter dans le plus simple appareil. Cette nudité quasi rituelle va jouer un rôle important dans la symbolique du conseil de révision. Elle donne lieu évidemment à toutes sortes de plaisanteries, vous imaginez, blagues de corps de garde, mais aussi à une forme de solennité. Le passage en conseil de révision devient, si vous voulez, une sorte de rite social initiatique. Le médecin prend les mensurations de chaque recrue, ce qui est pain béni pour les historiens et les anthropologues, entre parenthèses, parce que comme ça on sait exactement la taille des gens selon les générations, etc. Il examine sommairement le jeune homme. C'est le moment de faire valoir d'éventuels handicaps physiques de santé, de les faire valoir ou de les cacher, parce que, et ça il faut insister là-dessus, aussi étonnant que ça paraisse à nos temps contemporains un peu portés à resquiller, la principale angoisse de la plupart des jeunes gens convoqués, c'est de n'être pas déclaré apte et donc de passer pour des sous-citoyens, pour des hommes incomplets devant la société et notamment devant les femmes qui attendent évidemment cette sanction officielle du statut d'homme octroyé aux garçons de leur connaissance. Vous voyez qu'on n'est pas loin des rites primitifs, en quelque sorte. C'est Michel Boson, dans un bel article de la revue Histoire, qui nous dit que ce conseil de révision doit être regardé comme un rituel de la conscription. Il est certain que dans l'esprit des conscrits, écrit-il, le conseil de révision mesurait l'aptitude aux relations sexuelles et au mariage, plus que l'aptitude à porter les armes. Vous voyez l'importance que ça finit par revêtir. Les difficultés qu'avaient pour se marier les jeunes réformés, que l'on soupçonnait d'être atteints de tares honteuses, montrent que cette conception était bien partagée par toute la population. Étant donné que chacun considérait le conseil de révision comme un examen de virilité, ceux qui n'étaient pas jugés bons pour le service étaient victimes d'un ostracisme humiliant et de quolibets. Et à l'appui de ce qu'il nous raconte, Michel Boson cite le témoignage d'un conscrit, il s'appelle Olivet, ça se passe dans le Loiret, on est au conseil de révision d'Orléans en 1891. Donc au moment le plus important de cette espèce de fièvre militariste qui s'est emparée de la France à l'époque. On se rendit à la préfecture, écrit cet Olivet, de la même façon que pour le tirage au sort, avec drapeau, tambour, clairon, flot aux coiffures. Sur les 28 conscrits, 25 furent reconnus bons. Un camarade qui boitillait de naissance, un pauvre ouvrier jardinier tuberculeux furent réformés catégoriquement. Quant au troisième, c'était moi, je fus ajourné. Je n'avais que 97 de périmètre thoracique, alors qu'il aurait fallu 98. Ce ne fut pas drôle pour le boquillon, c'est-à-dire le boiteux, pour le poitrinaire, ni pour moi. Nos camarades commencèrent à nous blaguer avec mépris, nous traitant de fausses couches, de mal bâtis, de pas finis, et tandis qu'ils arboraient fièrement à leur coiffure un carré de papier enluminé acheté au forain et portant en grosses lettres le mot « bon », nous dûmes, selon l'usage, arracher les flots de nos chapeaux et les mettre dans nos poches. Bien plus, comble de déshonneur, il nous fallut tous les trois suivre ainsi sans armement le cortège, penauds, comme ces captifs qui, sculptés sur les monuments romains, sont traînés derrière les chars des triomphateurs. Vous voyez qu'en fait, il y allait de l'honneur d'un jeune homme, en fait, d'être déclaré bon pour le service. On a un peu oublié, évidemment. Alors après, on sait qu'on a vu tous les films des Charlots et tout ça. Évidemment, dans les années 60, 70, 80, c'est tout l'inverse.
C'est autre chose, là. Hein.
L'honneur, c'est d'arriver à se faire réformer. Mais à l'époque, c'était vraiment l'inverse. Il y a eu vraiment cette espèce de fièvre. Et, bien entendu, pour les conscrits qui avaient été déclarés bons au service, alors c'était 24 heures et peut-être un peu plus de fêtes, de débauches. On passait dans toutes les maisons, dans tous les bistrots. Et évidemment, quand les conscrits arrivaient avec leurs jolis chapeaux enluminés, eh bien, on leur servait de l'alcool à flot. C'était la fête, c'était la réjouissance générale. Pour ceux qui, ensuite, allaient partir soit pour la guerre de 70, soit pour la guerre de 1914, évidemment, les réjouissances auraient un terme.
Mes amis, que jour de fête, je veux marcher sous vos drapeaux. À mes amis, que jour de fête, je veux marcher sous vos drapeaux. L'amour qui m'a tourné la tête, désormais me ratera. À quel bonheur! Oui, mes amis, je vais marcher sous vos drapeaux, je vais marcher sous vos drapeaux.
Un extrait de La Fille du Régiment. Ah, mes amis, quel jour de fête, interprété par Luca Canonici, Franck.
Alors, dans un instant, avec mes invités, nous allons revenir non seulement sur l'histoire du service militaire qui, en 1965, devient le service national, mais aussi sur ces fameux mouchoirs qui, pour l'instant, je suis certain de cela, pour certains, pour beaucoup de nos auditeurs, restent sans doute très mystérieux.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Et avec vos invités, Franck, sur Europe 1, Patrick de Gmelin, qui est historien militaire, et Élise Dubreuil nous a rejoint. Elle est conservateur au département expertise et inventaire. Elle est la commissaire de l'exposition Avec armes et bagages dans un mouchoir de poche au musée de l'armée.
Alors donc, bientôt, d'ici quelques secondes, nous allons en savoir plus sur ces fameux mouchoirs exposés en ce moment au musée de l'armée. Alors Patrick de Gmelin, j'aimerais qu'on finisse quand même notre parcours de service militaire, si je puis dire. Ce conseil de révision dont je parlais, il est effectif jusqu'au milieu des années 30. C'est ça, après, le système évolue, évidemment.
Après ça, beaucoup de choses vont évoluer. Le service militaire devient national. On voit apparaître un certain nombre de catégories, y compris plus tard les objecteurs de conscience, qui n'auraient pas été imaginables, d'ailleurs, quelques années avant.
En tout cas, pas sous ce terme-là.
Pas sous ce terme-là. Bon, après ça, il y aura le service militaire, le service de défense, la fameuse coopération. Tout ça intervient au cours des années qui suivent.
Avec un service militaire qui diminue en durée, hein, puisqu'il passe à 16 mois. Ça, c'est en 1963. Alors, il y a quand même eu la guerre d'Algérie.
Il y a la guerre d'Algérie, où là, on partait 3 ans, pratiquement.
Oui, voilà, c'est ça.
Donc là, c'était tout à fait
30
différent.
30 mois, en fait.
Parce que c'est le contingent qui est parti. C'est une chose importante. Mm-hmm. C'est exactement comme pendant les deux guerres. En Algérie, c'est le contingent, alors qu'en Indochine, c'est un corps expéditionnaire composé de professionnels, de métiers. Ça change complètement. Et donc, c'est vrai, à partir de ce moment-là, les choses vont évoluer, j'allais dire, jusqu'à la fin.
Alors, diminution de la durée considérable en 92 ou 13, on passe à 10 mois, c'est ça ?
On passe à 10 mois, effectivement.
Oui. Et donc, à la fin, il reste plus grand-chose. Et il y a encore cette période, alors le service devient service national, on ne dit plus service militaire,
non, en fait, parce que... Alors ça, c'est, je crois, assez psychologique,
oui.
Parce que les idées évoluent chez les jeunes et chez les moins jeunes, et on ne veut pas stresser peut-être les gens, donc on ne dit plus militaire, on dit national, ce qui revient à peu près au même, quoique à l'intérieur, il y a tellement de filières possibles, y compris dans la coopération, où on voit de bons étudiants faire leur service en coopération dans une entreprise à l'autre bout de la terre, et qui finalement trouvent un job en sortant. C'était une chose à laquelle on n'avait pas pensé. Donc tout ça, c'est une évolution de l'institution à travers l'évolution des mœurs et de l'état d'esprit de la France.
Alors Françoise nous précise que le service national, puisque c'est son terme, n'a pas été supprimé, c'est son caractère obligatoire qui a été supprimé. Oui. C'est vrai que pour des juristes, ça fait une différence. Dans la pratique, il n'y en a pas tellement, parce qu'il y a certes un service qui existe encore sous la forme volontaire. On peut faire son service national.
Il y a même, au ministère de la Guerre, une direction du service national, ce qui fait toujours un petit peu sourire, parce qu'en dehors de la journée citoyenne qui existe maintenant, le service national n'a plus du tout le même contenu qu'auparavant.
Alors, il faut dire aussi qu'il y a eu une petite période intermédiaire, pardon, avec un service civil, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'a pas, fait florès.
Hein. Oui.
C'était très compliqué à organiser. Alors ça, c'est quand même, je me rappelle moi avoir organisé, quand j'étais étudiant, des conférences, vous savez, et on avait des militaires qui venaient, qui étaient contre le service national en disant « c'est une usine à gaz, ça coûte très cher et ça sert à rien ». En gros, c'était ça ce qu'on disait.
C'est tout à fait vrai. Ça coûte très cher d'organiser tout ça. C'est peut-être pourquoi d'ailleurs il y a une direction du service national au ministère de la Guerre qui est commandée par un 4 étoiles, s'il vous plaît. Ça fait un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Mais c'est vrai que ça coûte très cher. L'organisation de la journée nationale coûte très cher et occupe pendant toute l'année pour une seule journée.
Alors, évidemment, les mentalités ont beaucoup changé. Celles qui nous intéressent essentiellement, ce sont celles du 19e siècle et du début du 20e, puisque ce sont elles qui sont au cœur de cette exposition avec armes et bagages dans un mouchoir de poche. Bonjour Élise Dubreuil.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous avoir rejoints. J'allais dire quelle drôle, mais en même temps, quelle belle idée, parce que le résultat est magnifique, que de faire une exposition sur ces mouchoirs imprimés. Enfin, à partir d'eux, en tout cas.
Alors, tout à fait, c'est une exposition à partir de ces objets, un peu étonnant, pour qu'on visualise de quoi il s'agit. C'est proche de ce qu'on appelle aujourd'hui avec nos mots à nous des foulards.
Oui, voilà. Oui.
Ce sont des objets donc imprimés.
Disons clairement que ce sont des foulards.
Ce sont des foulards et qui ont la fonction qui est proche de celle du foulard, d'accessoire de l'habillement pour les femmes comme pour les hommes à l'époque. Ce sont des objets qui nous intéressent parce qu'ils sont porteurs d'images et que ces images soit reflètent un petit peu tout ce dont il vient d'être question de ce milieu, de l'idée de développer le patriotisme, mais en même temps de pouvoir avoir un regard amusé, voire satirique sur l'armée et sur les soldats, les militaires. Et puis aussi parce que ce mouchoir, il va être utilisé au sein de l'armée. Ce sont les fameux mouchoirs d'instruction.
Alors voilà.
Voilà. Alors,
ça, c'est comme des manuels d'instruction militaire, mais c'est imprimé sur de l'étoffe.
Voilà.
Donc c'est facile à plier.
C'est une sorte d'aide-mémoire. Mmh. Imprimé sur tissu, qui a l'avantage d'être relativement plus résistant que le papier, finalement, avec un contenu à la fois fait d'images, pour éventuellement des gens qui ne maîtrisent pas très bien la lecture, et complété par des textes, avec une portée à la fois technique, très précise, par exemple comment monter et démonter un fusil, comment préparer ses affaires pour la revue de détail, et puis également un contenu plus d'illustrations, des scènes édifiantes, on va dessiner et expliquer tel ou tel épisode des guerres de l'Empire, du Premier Empire, pour montrer un petit peu les vertus militaires qu'on souhaite voir développer chez les soldats.
Donc ces foulards, enfin ces mouchoirs, étaient utilisés, ils étaient emmenés sur les champs d'opération par les soldats ?
Alors, sur les champs d'opération, peut-être pas. En tout cas, ils étaient dans les casernes.
Dans les chambrées, etc.
Voilà, dans les chambrées.
On pouvait les épingler au mur, bien sûr.
On peut les accrocher au mur.
C'est très décoratif, il faut dire ce qui est.
Ça a une valeur décorative. Et puis, ils pouvaient même être distribués aux soldats par leur responsable, qui en a eu l'autorisation en 1880 par le ministre de la Guerre lui-même, d'acheter ces fameux mouchoirs et de les distribuer aux recrues s'ils le jugeaient nécessaire.
Alors, évidemment, ça s'appelle mouchoir, mais on ne se mouchait pas dedans, quand même, il faut
ça
le dire.
Ça s'appelle mouchoir, c'est toute l'ambiguïté qui n'échappait pas aux contemporains. On a des images de Daumier très drôles où on défend sévèrement un enfant de se moucher dans le mouchoir qui lui censé lui apprendre la géographie. C'est toute l'ambiguïté de l'objet qui nous a amusés et permet aussi de prendre les choses sous un angle un petit peu décalé pour cette exposition.
Alors on va y revenir sur ces mouchoirs et interroger en quelque sorte ce qu'ils ont à nous apprendre. Ce que je voudrais qu'on voit avec Patrick de Gmelin, c'est cette espèce de folklore finalement qui est né autour du service militaire. Il y avait, moi je me rappelle étant petit, ça faisait partie, notamment dans les campagnes, hein, il faut dire, c'était peut-être un peu moins vrai dans les villes, ça faisait partie du vocabulaire permanent et quand on était tout petit, je me rappelle les vieux qui nous disaient, ah ben tu verras quand, et alors c'était toujours des histoires d'armée, de service militaire, de, bon, le côté apte et bon pour le service faisait partie des références quotidiennes en fait.
Absolument, et le vocabulaire qui était utilisé par ces hommes, qui étaient les conscrits, puisque c'était des hommes, et peu à peu, et progressivement, passer pour certains d'entre eux dans le langage quotidien.
Bon, les bidasses, évidemment.
Les bidasses, l'ordinaire, par exemple. Oui, l'ordinaire, c'est la cantine. Ouais. Le bidasse,
la gamelle, etc.
La quille, bien entendu. Et la quille, maintenant.
C'est quoi la quille, il faut dire, pour les plus jeunes de nos auditeurs.
C'était une quille, une grande quille. Ouais. Moi, je l'ai vue.
Plus ou moins belle, selon les moyens.
Plus ou moins belle, décorée, etc. Et que le conscrit avait le droit d'arborer le dernier jour de son service militaire, au moment où il était libéré. Donc, c'était la quille. Et maintenant, on peut utiliser vivement la quille sans aucune notion et connotation militaire.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
On parle de supprimer d'un seul coup toute l'armée. Il y a quelques imbéciles qui la trouvent inutile. Supprimer tous les soldats, c'est un crime, c'est même plus que ça. Car je le dis bien aux démilitaires, ben il en faut. S'il n'y avait plus de militaires, qu'est-ce qu'on deviendrait sur terre? Je vous jure qu'il y en aurait beaucoup qui trouveraient que c'est un sale coup. Qu'est-ce qu'on ferait des casernements? Qu'est-ce qu'on ferait de notre habillement? Les tuniques et les pantalons qui sont ou trop courts ou trop longs. Et les godillots si cossus qu'on fait briller en crachant dessus. Qui c'est qui mangerait les paillots qui font glou-glou dans les boyaux? Que deviendraient les commandants? L'adjudant qui vous fout dedans, le major qui vous fout dehors. Mais où est-ce coquin de sort, toutes les puces et toutes les punaises qui dans les pieux se promènent à l'aise. Et qu'est-ce que diraient les nounous s'il n'y avait plus des tourlourous pour les prendre sur leurs genoux et pour les
s'il n'y avait plus de militaires, interprété par Jackie Franck.
Alors nous sommes toujours en compagnie de nos invités pour parler du service militaire avec Patrick de Gmelin, avec Élise Dubreuil qui est commissaire de cette exposition avec armes et bagages au musée de l'armée. Et je feuillette le magnifique catalogue qui est plein d'essais comme tous ces beaux catalogues. Et qui, bien sûr, est illustré de couleurs très vives. Et à chaque fois, quoi, on fait O, A, et ce sont des carrés Hermès, hein, disons-le, qui illustrent.
Tout à fait, puisque nous en présentons quelques-uns, 8 exactement, dans l'exposition. L'idée étant de montrer que ces mouchoirs du 19e siècle, qui sont des objets assez humbles, finalement, assez quotidiens, ont eu une descendance... Un peu étonnante pour nos contemporains,
tout à fait,
savoir
luxueuse, disons.
Ces fameux foulards de luxe. Alors on change complètement de registre puisqu'on passe dans le monde du luxe, d'un objet mixte à un objet féminin évidemment, et puis de la toile de coton un peu grossière à la soie.
Alors justement, nous avons en ligne Ménéhoule de Basler, qui est directrice du patrimoine culturel d'Hermès. Bonjour Ménéhoule de Basler.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous répondre au téléphone. Alors vous avez participé à cette exposition du musée de l'armée, bien entendu. Est-ce que la maison que vous représentez s'est inspirée de ces mouchoirs d'instruction militaire ?
Oui, depuis l'origine, le tout premier carré Hermès, qui est vraiment un dessin maison, on le date de 1937, mais qu'il soit déjà dans le magazine Vogue de 1936, c'était une façon de renouer avec cette tradition qui était déjà complètement oubliée dans ces années 30, dans ces années de l'entre-deux-guerres. notamment pour la verve narrative, le petit côté vecteur d'histoire, support d'une culture.
C'est-à-dire qu'en fait, peu à peu, d'un usage qui au départ était proprement militaire, on a vu ces mouchoirs, entre guillemets, qui sont en vérité donc des foulards imprimés, on les a vus se diversifier et devenir aussi des jeux d'enfants, il faut le dire, devenir toutes sortes. On a des cartes géographiques, on a toutes sortes d'éléments plus ou moins pédagogiques et parfois simplement décoratifs, disons-le.
Voilà, et c'est sur cette tradition-là qu'Hermès a réimplanté, a fait redécouvrir le mouchoir multi-usage, multi-charme, multi-possibilité. Et notamment, vous parlez des jeux d'enfants.
Oui.
Et ça avait donné une idée à Hermès une année d'un jeu qu'on avait appelé le jeu des petits bonheurs, qui renouvelait le jeu de loi, mais qui permettait aussi de déployer son carré, de le poser au sol et de jouer avec des dés de case en case, comme ça.
Ce qu'il faut dire, c'est que votre maison, évidemment, est très liée à l'histoire de la cavalerie.
Oui.
Il y a donc une tradition militaire incontestable. Mais ce qu'on sait parfois moins, j'imagine qu'un certain nombre de nos auditrices le savent, c'est que les grands succès des carrés sont souvent liés à des motifs militaires, des batailles, des épopées, des trophées.
Et voilà. Et c'est en ce sens-là, on est finalement dans la ligne du prestige des uniformes militaires. Le prestige étant principalement dans le cœur des dames.
Ça, voilà.
Stendhal souligne beaucoup. Et ça nous... dans le rouge et le noir, dans Lucien Lewen.
Évidemment, bien sûr.
On voit que le prestige des épaulettes, de l'uniforme, d'une veste avec passepoil amarrante, avec des épaulettes de sous-lieutenant, ça c'est le bonheur pour une femme.
Ah, j'aime les militaires, chantait la grande duchesse de Gerolstein, évidemment. Alors, on peut dire aussi que tous ces attributs de luxe, en quelque sorte, ont un côté, pas androgyne, mais un peu quand même. C'est unisexe, ce foulard, finalement.
Oui, bien sûr, il n'a cessé de s'échanger entre le vestiaire masculin et féminin, puisqu'il y a des hommes qui portent aussi des carrés Hermès, très naturellement. Et au fond, ils ne sont pas particulièrement uniquement réservés aux femmes. Ce sont surtout des accessoires du mouvement. Et c'est pour ça que nous, on les a appréciés. Hermès, les racines d'Hermès sont celles d'un sellier-harnacheur. Au XIXe siècle, sous Louis-Philippe. Et avec ces racines de sellier-harnacheur, on a comme valeur principale le mouvement, l'élégance,
voilà,
dans le mouvement.
Bien sûr.
Et le carré de soie fait vraiment partie de cette tradition-là. Il est utile éminemment quand on se déplace, quand on bouge.
Merci.
Et il y a le petit plus, c'est quand il est narratif, si vous voulez.
Oui, qu'il raconte une histoire,
voilà,
en quelque sorte, ou qu'il commémore aussi un événement. Voilà.
Oui, il peut aussi commémorer un événement.
Merci beaucoup, Ménéou de Baselair. Pardon, je suis obligé de vous interrompre, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de nous avoir parlé de cette belle tradition. Merci à vous, Élise Dubreuil. Donc on peut voir l'exposition en ce moment au Musée de l'Armée, on a encore un peu de temps.
Oui, jusqu'au 13 janvier.
Et quant à vous, Patrick de Gmelin, je vais vous libérer pour aller retourner à vos chères études. Vous travaillez sur le général de Castelnau, dont vous aimeriez bien qu'on l'appelle le maréchal de Castelnau,
oui,
du reste.
Oui, oui, oui. Et puis il y a un petit mouvement qui est en train de se dessiner.
Vous
et
croyez...
pas parmi des folkloriques, parmi des politiques, parmi des journalistes. Pourquoi pas?
Oui, bah
ça serait quand même quelques années après.
Et il faut quand même le resituer en d'un mot, le général de Castelnau, dans le temps notamment. Hein.
C'est un grand soldat qui a quand même en même temps été... un grand intellectuel, un homme de culture, pas uniquement le militaire.
Il est mort
très tard, il est mort en 1944, il était né en 1851.
Et
c'était un des plus grands soldats de la guerre de 14, reconnu par tout le monde, même par ses adversaires, mais cependant on ne l'a pas fait maréchal de France, alors peut-être, on ne sait jamais.
Et à cette époque justement où il était, où la France entière était aux armes et sous les drapeaux en quelque
Absolument,
sorte. Merci de nous avoir fait profiter de vos lumières. Merci à toute l'équipe, puisque j'ai quelques secondes, j'en profite pour remercier beaucoup Lorena et Marion qui tous les jours préparent cette émission et la préparent, croyez-moi, avec beaucoup d'efficacité. Merci à Guillaume Vasseau, merci à Fabrice.
Elles sont gênées,
aujourd'hui aux manettes. Elles sont toutes gênées, elles sont toutes rouges derrière la vitre, c'est merveilleux. Merci.
C'est la journée
tous.
De la gentillesse d'ailleurs aujourd'hui.
Eh ben voilà,
c'était l'occasion de le faire.